Des rencontres, du rire, de la controverse, voici le magazine de la grande matinale. On est cette semaine avec l'humoriste Mao Drama. Elle va nous parler ce matin d'une épidémie de solitude. Et puis c'est Alix Van Pé qui nous présente ses nouvelles têtes jusqu'à jeudi, aujourd'hui une primo-romancière. À 9h30, vous retrouverez le débat du jour. Il y a 30 ans, jour pour jour, disparaissait la grande Marguerite Duras, tantôt célébrée, tantôt détestée de son vivant. Qu'en est-il aujourd'hui? Doit-on idolâtrer Marguerite Duras? Deux écrivains s'opposent tout à l'heure à ce micro. Mais tout de suite, le grand portrait.
France Inter. La grande matinale. Sonia De Villers.
Quand on a été kidnappé par la police de son pays et passé à tabac, terrorisé par des passeurs, entassé à fond de cale au milieu de la Méditerranée, pourchassé par une bande armée et qu'on a survécu à la jungle de Calais, à quoi on pense quand on arrive au bureau le matin? À quoi on pense quand on pousse la porte de chez L'Oréal, quand on marche dans les rues de Paris, quand on traverse une frontière avec une simple valise à la main, quand on s'endort le soir et que parfois on se réveille la nuit? À quoi on pense quand on va se baigner, quand on plonge dans l'eau fraîche et qu'on sent ses membres se déplier? Ça peut vous paraître étrange, mais un homme qui nage n'est plus un migrant, c'est un homme qui nage. Ce matin, témoignage sidérant et portrait numéro 99. Bonjour Karam Hassan.
Bonjour beaucoup.
Merci. Bonjour beaucoup.
Voilà.
C'est l'émotion.
Vraiment merci beaucoup pour cette très belle invitation. Je suis sincèrement très touché.
Et ben, c'est nous qui sommes très touchés par votre récit, Un rêve plus loin, qui vient de paraître aux éditions Albin Michel. Je l'ai dit tout à l'heure à mes petits camarades, vous êtes chef de projet chez L'Oréal. Vous avez aussi fondé une association qui s'appelle La Voix des Réfugiés. Et c'est évidemment ce qui paraît être une anecdote dans un parcours aussi fou que le vôtre, entre le Soudan, où vous êtes né en 1987, et Arras, où vous êtes né une deuxième fois. Entre les deux, il y a eu la peur de l'eau, et entre les deux, il y a eu apprendre à nager. Oui, vous avez appris à nager.
Ouais, j'ai appris à nager, pas parfaitement, mais en tout cas, ouais. Mais en fait, j'aime pas l'eau. Sincèrement, j'aime l'eau que pour deux choses, boire et me laver. Mais en fait, j'ai appris à nager parce que c'était important et je me suis rendu compte, en fait, quand j'ai pris le bateau, pendant 10 jours sur la bateau, sans nager, pour moi, c'était quand même normal. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était dangereux.
C'était dangereux.
Ouais.
On va raconter ce départ. C'est votre père qui vous pousse à quitter le Soudan, qui est devenu beaucoup, beaucoup trop dangereux pour vous. Vos parents vous ont donné toutes leurs économies pour partir. Toutes leurs économies, c'est-à-dire 3 000 $. Vous avez un père boulanger et une mère au foyer. Ils ont 7 enfants. Ils vous donnent tout pour partir. D'abord, c'est l'Égypte, c'est ça ?
Tout à fait, oui. J'ai quitté le Soudan pour aller en Égypte en voiture. Mmh. Et quand je suis arrivé en Égypte, j'ai rencontré des passeurs. Et après, j'ai pris le bateau et je suis arrivé en Italie après 9 jours sur la mer.
C'est 9 jours sur la mer, il faut les raconter.
Voilà, c'était...
Il faut les raconter parce que d'abord, quand vous vous retrouvez entre les mains des passeurs, c'est terrifiant. C'est-à-dire que vous êtes totalement à leur merci, vous êtes lâché dans des camps, vous êtes complètement affamé, vous êtes battu pour le moindre mot de travers.
Alors en fait, on leur donne notre vie en fait, parce qu'on n'a pas le choix. Et quand j'ai quitté le Soudan, j'avais pas le choix. Et le seul choix, c'était de partir en fait, d'arriver ici en Europe. Cela en fait quand je suis arrivé en Égypte. Et quand j'ai rencontré en fait le passeur en Égypte, ils m'ont dit un discours que tu vas être dans un grand bateau
et de un paquebot.
C'est ça. Et j'arrive, c'était des petits bateaux, et ça, c'était le premier choc. J'ai tombé...
Des barques.
Exactement.
Des barques pour traverser la Méditerranée.
Exactement. Et après, ça a pris 9 jours sur la mer, et pendant ces 9 jours de la mer, il y avait des tensions, il y a des angoisses à la fois individuelles et collectives. On buvait une fois par jour, on mangeait une fois par jour. Les situations hygiènes inexistante. Mmh. Et c'était quand même des moments incroyables. En fait, moi, mon rêve, c'était de toucher la Terre. Ça, c'était vraiment mon rêve. Et j'aurais jamais imaginé être vivant, en fait, traverser ça. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a vécu toute sa vie dans le peur. En fait, quand j'étais petit...
Dans la peur.
Quand j'étais petit, j'ai vécu dans la peur parce que j'avais peur de mourir jeune. Je sais pas. Et après, quand je suis parti en Inde, aussi, il y avait des
peurs. Où vous avez fait vos études.
Exactement. Et quand je suis rentré au Soudan, aussi, la peur. Et quand j'ai pris le bateau, la peur. Quand je suis arrivé en France, aussi, la peur. Et en fait, tout le temps, j'ai vécu en fait, toute ma vie dans cette peur.
Mmh. Vous avez moins peur aujourd'hui ?
Oui, je me sens très bien aujourd'hui. Ouais.
تكتي الطفلة حلوة وباني تاها كتابة والحبابة تمسح بالحنين أكوابة والجمرية تمسح
Pourquoi il a fallu quitter le Soudan ?
Alors le Soudan, fin décembre 2013, j'arrive au Soudan. J'étais arrêté à l'aéroport. Pourquoi ? Parce qu'ils me posent des questions. Pourquoi tu es parti en Inde ? Je leur ai dit, en fait, je suis parti pour faire mes études. Ils m'ont dit, bah non, en fait, tu étais fait partie d'un groupe opposant. J'étais mis dans une prison pendant quelques temps. J'étais libéré sur des conditions. Donner des informations sur des personnes dans mon quartier, c'était dur. C'était insupportable, invivable. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai décidé de partir.
C'est ça. Vous deveniez un informateur du régime, un indic, un délateur.
Exactement.
Il faut quand même que vous racontiez, comment dire, la terreur exercée au Soudan à l'époque, où il y a des exécutions sommaires, des arrestations.
Alors en fait,
où l'un de vos cousins est interrogé,
est arrêté. En fait, depuis des années, depuis plus de 20 ans, le Soudan. Tous les jeunes, en fait, qui sont de Darfour ou qui sont de sud de Soudan, sont arrêtés. Toutes les personnes, surtout en fait, qui sont étudiants. Et par exemple, en fait, parfois, quelqu'un qui est juste à l'université, il peut être confronté à la violence et arrêté parce qu'en fait, ils ont peur que cette personne va fonder un groupe opposant au gouvernement en disant, on voulait notre droit, etc.
Quand vous arrivez, quand vous touchez la terre. Après cette traversée en bateau, vous avez changé 4 fois de bateau. Quand vous touchez la terre et que vous êtes bien vivant, vous êtes à ce moment-là dans un centre pour réfugiés en Sicile. Et avec 2 autres migrants, vous faites le choix de fuir le plus vite possible pour ne pas tomber sur la police.
C'est ça.
Et là commence un long périple à travers l'Europe.
Tout à fait. Depuis là-bas, en fait, la destination... L'objectif, c'était d'aller en Angleterre et se cacher. Parce que personnellement, j'ai un rapport très mauvais avec la police. J'avais toujours peur d'être arrêté parce que j'étais sans papier. Et je passe depuis la Sicile jusqu'à Vintimille. Après, je rentre en France par Lyon.
Nice, Lyon, nice, ouais.
Paris.
Ouais.
Et après
Paris,
Calais.
Vous dormez dans la rue.
C'est ça, dans la rue pendant tous les jours, pendant tout le temps, j'étais dans la rue parce que je connaissais personne en France. Je parlais pas la langue, je connaissais pas la culture. Et pour moi, c'était plus facile en fait d'aller en Angleterre. Et c'est pour ça que je suis parti à Calais. Je me retrouve dans une ville avec beaucoup de chocs. Parce qu'en fait, c'est la jungle de Calais.
La jungle de Calais à l'époque.
Exactement. Ouais.
Mais vous imaginiez pas que ça pouvait ressembler à
tout.
Ça.
Pas du tout.
Un gigantesque bidonville, écrivez-vous aujourd'hui. Un gigantesque bidonville. Où vous avez connu une forme de fraternité.
Exactement.
Très forte.
Ouais, très forte.
Très, très forte. Et en même temps, une espèce de, comment dire, de violence féroce, permanente, quotidienne, usante. Très dur à vivre.
Et en fait, ces moments-là, pour moi, c'était des moments inoubliables parce qu'aujourd'hui, c'était des moments durs, mais ça m'a donné la force que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, certes, c'était des violences, c'était des difficultés, c'était... en fait, j'ai vécu sans vivre.
Alors ?
Et c'est très fort, en fait.
Il y a eu plusieurs tentatives pour partir en Angleterre.
Ouais.
La première... Pourquoi elle échoue ?
En fait, j'ai essayé de monter dans un camion traversée, j'arrive à la douane. Et ça, j'étais arrêté. Enfin, les chiens me détectent que je suis un être humain qui est là-bas. J'étais arrêté. Et après, la police me dit, allez, allez, allez.
Deuxième tentative.
Pareil, en fait. Et après, à un moment donné, j'ai eu cet ami qui est décédé un jour. En passant de la jungle, en disant, Mozab, en disant Mozab. Au revoir. Il est parti. Vers 19h, il est décédé. Je reçois cette information comme un choc.
En fait, il s'est fait écraser.
Tout à fait.
En fait, c'est le risque immense que de partir seul, accroché à l'essieu d'un camion.
C'est exactement ça. Et je me disais, j'ai pas fait tout ça pour me retrouver. Et peut-être
sous
je vais avoir
le roue d'un camion.
Voilà. Peut-être je vais avoir le même destin que lui.
Et là, c'est le déclic.
Et là.
Possible rêve, porter le chagrin des départs.
Je vous ai mis du Brel parce que c'est avec Brel que vous apprenez le français.
C'est, en fait,
cher Karam.
J'ai écouté, c'était peut-être pas la façon la plus facile d'apprendre une langue. Exactement. Le français, c'est une langue très, très, très compliquée, mais très, très, très belle langue.
Ouais,
j'adore.
Vous avez une passion pour le français.
J'adore. J'ai vraiment une passion et en fait, j'ai écouté la radio.
Ouais.
France Inter, France Culture
c'est
et
vrai
France Info.
Ouais.
Et depuis 2016, je comprenais pas tout, mais j'ai quand même, j'adore les journalistes, j'adore leur voix. Et moi, j'ai rêvé depuis que j'étais petit d'être journaliste. Ça, c'était vraiment, bah vraiment. Ça, et aussi la musique. J'écoutais beaucoup de la musique, mais surtout des personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont donné. Françoise,
je suis super émue. Alors. Donc, il faut raconter que dans la jungle de Calais, d'abord, comme vous parlez anglais, vous avez appris l'anglais en Inde, vous avez beaucoup servi de traducteur aux autres. Et puis aussi, vous êtes beaucoup passé à la télé, parce que les journalistes cherchaient des témoins pour raconter aussi ce qui se passait au Soudan.
Oui,
c'est ça ?
Tout à fait, oui.
Donc voilà, Karam Hassan à la télé.
Oui, je le faisais parce que pour moi c'était important de le faire parce que beaucoup de gens souffraient au Soudan et beaucoup de gens aussi souffrent quand j'étais à la jungle de Calais. Mmh. Même s'il y avait cette solidarité, mais quand même il y avait l'angoisse, le peur aussi en quelque sorte en fait que quand ça va durer en fait tout ça. Et du coup je racontais la situation à Calais et aussi la situation
au Soudan.
Et je fais aussi la traduction pour ceux et celles qui veulent rester en France.
Il faut que vous nous racontiez. Qui est Françoise ?
Alors, Françoise, c'est ma maman de France.
Ouais.
C'est une dame que j'adore, qui a 83 ans. Cette dame, c'est elle qui m'a tout donné, sincèrement. Elle m'a accompagné pour apprendre le français. Elle m'a accompagné pour créer notre belle association que je vais parler, La Voix de Réfugiés. Et aussi, elle m'a accompagné de comprendre la culture française, de comprendre aussi...
Alors, elle était enseignante.
Oui, elle était enseignante de... Exactement, pendant à Arras, pendant quelques années. Et depuis 2016, en fait, elle a décidé de donner des cours de français aux réfugiés. Donc, c'est pour ça qu'en fait, elle est arrivée à OCADA, au centre d'accueil de demandeurs d'asile à Arras, où elle a donné des cours de français. Et c'est là-bas qu'on se retrouvait.
Ouais, la ville de la Renaissance.
C'est ça. C'est ma ville de cœur. C'est ma ville de cœur. Et je salue, je salue toutes les personnes qui m'ont accompagné. Cette ville, je n'oublierai jamais parce que je suis né une deuxième fois en France, notamment à Calais et à Arras. Et cette ville, j'adore et je remercie vraiment toutes les personnes qui m'ont accompagné. Je salue aussi le maire d'Arras qui m'a accompagné et
ces
personnes.
Qui a pris en charge les frais de votre scolarité.
Tout à fait.
Bon, Jean-Jacques Goldman, parce que vous avez aussi appris le français.
Encore un matin. Encore un matin.
Un matin pour rien, une argile au creux de tes mains.
C'est plus loin.
Bah, ça, c'est votre hymne.
Ah ouais.
Vraiment.
Ah ouais, ouais, ouais. C'est mon... Ouais.
Matin pour donner ou bien matin pour prendre, pour oublier ou pour apprendre.
Maintenant, ce qu'il faut, c'est vous faire rencontrer Jean-Jacques Goldman.
Exactement, ouais.
Exactement.
Et peut-être aussi...
On va s'en occuper.
Ouais, et peut-être aussi chanter. En fait, peut-être je vais changer la profession et devenir chanteur.
Et devenir chanteur.
Je rigole.
Parce que quand même, vous êtes quand même capable de beaucoup. D'abord, vous obtenez un vrai diplôme. de français langue étrangère. Et puis, direction l'université pour faire du management, pour étudier le management, direction Sciences Po. Non, mais c'est, l'histoire est folle. Ça, je suis en face de quelqu'un aujourd'hui qui est en chemise, costard absolument impeccable et qui retourne travailler chez L'Oréal tout à l'heure. Alors que vous avez traversé la Méditerranée à fond de cale, voilà, au milieu du vomi et des excréments. Enfin, c'est très bien raconté dans le livre. C'est un cauchemar absolu ce que vous avez. Vécu. La situation ne fait que s'empirer au Soudan pendant ce temps-là. Ouais. Qu'est devenue la famille ?
Ma famille aujourd'hui habite en Égypte depuis presque 2 ans. À cause de la guerre, ils étaient obligés de quitter le Soudan.
Donc eux non plus, ils n'ont pas eu le choix.
Ils n'ont pas eu le choix. Donc quitter le Soudan dans une situation aussi très, très, très compliquée. Et moi, j'ai retrouvé ma famille après 9 ans. C'était un moment très fort de retrouvailles. C'est la première fois que je voyais mon père pleurer et ma mère aussi. Et pendant 3 jours, je dormais peu. Je dormais
pour profiter d'eux.
Et pour profiter d'eux. Et j'avais pas envie de dormir parce que je me disais peut-être le temps va passer très vite. Et je suis resté
9 ans sans les voir.
Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, en France, j'ai retrouvé des personnes qui étaient aussi ma famille, des personnes que j'ai rencontrées au secours catholique, des personnes que j'ai rencontrées à Arras, des personnes que j'ai rencontrées chez L'Oréal. Et en fait, ces personnes-là, elles étaient là, enfin, elles étaient comme ma famille. Et après 9 ans, quand je suis allé voir cette famille, ma famille, je me disais, mais comment je peux tenir 9 ans sans voir ma famille ? C'est énorme, en fait. Avoir une famille, c'est peut-être quelque chose de banal. Parfois, on ne peut peut-être même pas réfléchir, mais avoir une famille, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Et aujourd'hui, je suis retourné une deuxième fois, et là, je vais retourner aussi cette année. Et voilà, j'ai soif de voir vraiment ma famille tout le temps, tout le temps, tous les jours, tous les jours.
Il y a quelque chose qui traverse ce livre, c'est l'expérience du racisme. Et ce n'est pas du tout l'expérience du racisme en France. Ouais. C'est l'expérience du racisme dès le Soudan. Ouais. C'est-à-dire que vous êtes noir et au Soudan, vous êtes trop noir. Ouais. Pourquoi vous êtes trop noir pour le Soudan ?
Parce qu'en fait, le Soudan, c'est un pays très particulier. C'est un pays africain, mais avec une violence arabe. Et du coup, en fait, il y a une minorité qui gouverne le pays depuis l'indépendance. Et en fait, toutes les personnes qui viennent de Darfour ou qui viennent de sud du Soudan, ils sont pas clairs de peu. Et puis, ils ont vu comme pas des vrais Soudanais. Et c'est pour ça qu'en fait, par exemple...
En fait, vous avez la couleur de peau des esclaves.
Exactement. Mmh. Et d'ailleurs, en fait, il y a une phrase que j'ai dit dans le livre, qu'un jour, un ami m'envoyait avec un costume blanc, et il m'a dit, ah, c'est nickel, mais le problème, t'es noir. Mmh. C'est violent. Mmh. Mais pour moi, c'était normal, parce que la société rend ça normal.
Et en Égypte, vous êtes aussi ce qu'on appelle les Samara. C'est-à-dire
les Samara,
les noirs de peau.
Voilà, c'est ça. Exactement. Ouais.
C'est-à-dire ceux qui ont les pires métiers.
C'est ça. Ouais, exactement.
Donc en fait, être noir de peau, c'est un fardeau au Soudan, en Égypte, bien avant d'arriver en France.
Exactement. Mais aujourd'hui, en fait, être noir pour moi, c'est j'adore d'être noir. J'adore ma couleur de peau. Et c'est fou parce que vraiment arriver en France sans parler la langue, il y a 12 ans. Et se retrouver aujourd'hui à la radio, à France Inter, à cette émission, l'émission la plus écoutée en France, être accueilli et parler en français, pour moi c'est fou, c'est incroyable. Je travaillais chez L'Oréal, des personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont tout donné. Et je citerai, en fait, je vais citer quelques personnes que je dois les remercier.
Allez-y.
Jean-Claude Legrand.
Allez-y.
C'est une personne incroyable qui m'a vraiment accompagné. Alexandra Palt, Linda Bergeron, Selima, Pauline Avenel-Lame, énormément de personnes.
Voilà, et cette Françoise qui est votre deuxième maman. Karamasa, merci d'être venue raconter cette histoire. Un rêve plus loin, c'est donc paru aux éditions Albin Michel. La prochaine fois, on essaiera d'organiser une rencontre avec Jean-Jacques Goldman.
Très bien, mais franchement... Merci à la France, ce pays qui m'a tout donné. Et merci à toutes les personnes qui m'ont vraiment accompagné. J'ai oublié quelques noms.
C'est pas grave.
Voilà, Laurent Tara, Julie, et la maison Albin Michel, et toutes les personnes qui m'ont accompagné, Donny, Maël. Franchement, la liste est longue.
La liste
mais
est
merci
longue.
À toutes les personnes qui m'ont accompagné.
Merci.
Soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées, plus de flamme orange dans le ciel mouillé, on dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial. Fais grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir. Mes poumons non sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares. Comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Le soir, des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là. Je sers plus à rien, moi, y a plus rien.
Bah c'est Bernard Lavilliers, évidemment que c'est Bernard Lavilliers. Et c'est les mains d'or, bonheur absolu. Vous êtes dans le MAC de la Grande Matinale, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. À 9h45, il y aura Mao Drama en personne.
Bonjour Sonia. Alors comment ce allez-vous matin? Ce matin, je vais parler de ce que le capitalisme nous fait perdre de plus cher, nos amitiés.
Carrément. Alix Van Pay, bonjour.
Bonjour.
Une nouvelle tête ce matin.
Mais oui, on va recevoir Julia Lepère, une romancière poétesse au texte écrit avec une plume en fusion. Son premier roman, La mère et son double, ressemble à une succession de rêves complètement fous.
Plume en fusion, vous allez voir. C'est le sujet du débat du jour. Et attention, attention, une fois n'est pas coutume, on commence avec des proches. Il est 9h30 sur France Inter.
Hiroshima, mon amour. Quel étrange cri, disait Marguerite Yourcenar à propos de ce titre de Marguerite Duras. Aussi, Marguerite Duras, l'apologiste sénile des infanticides ruraux. Mais c'est vrai, elle a raison, Yourcenar. Quel étrange cri. Hiroshima, mon amour. Pourquoi pas Auschwitz, mon loulou.
C'était donc il y a 30 ans, le 3 mars 1996, Marguerite Duras s'éteignait à son domicile parisien. Elle laissait derrière elle une œuvre considérable, de Barrage contre le Pacifique à L'Amant, prix Goncourt 1984, en passant par La Douleur, Moderato Cantabile, mais aussi des pièces de théâtre et des films. D'ailleurs, vous n'avez pas entendu l'entièreté du sketch de Desproges, mais il dit « Marguerite Duras n'a pas écrit que des conneries, elle en a filmé aussi ». Voilà, une traversée donc du XXe siècle qui a
a suscité bien des passions contraires. L'œuvre, comme la personne, ont été idolâtrées, mais aussi détestées. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Faut-il idolâtrer ou détester Marguerite Duras ? On en parle avec deux écrivains.
France Inter, la grande matinale. Sonia De Villers.
Bonjour Charles Dantzig.
Bonjour Sonia.
Soyez le bienvenu, vous qui publiez l'inventaire de la basse période aux éditions Grasset. Je peux citer aussi votre dictionnaire égoïste de la littérature française. Face à vous, Pauline Peyrade. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître Les Habitantes aux éditions de Minuit, et je précise que c'est important d'avoir choisi une autrice de chez Minuit, parce que c'est la maison historique qui a publié les œuvres de Marguerite Duras. Vous avez reçu le prix Goncourt du premier roman en 2023 pour L'âge de détruire, également aux éditions de Minuit. Alors, qui veut commencer ? Peut-être vous, Pauline Peyrade. Quel âge vous avez quand vous avez découvert Marguerite Duras ?
J'étais adolescente.
Adolescente,
ouais, c'est voilà. Difficile de situer les âges.
Oui, bien sûr.
J'étais au lycée, j'ai lu Les Petits Chevaux de Tarquinia. Mmh.
Et coup de foudre.
Ouais, oui, enfin surtout sidération, surprise. Et en plus, Marguerite Duras, c'était... une écrivaine importante, du coup c'est pas un livre qu'on vous met dans les mains, c'est un livre vers lequel je suis allée, en fait, oui. Je sais pas trop comment, oui. Enfin, en disant voilà Duras, c'est un moment, voilà j'ai pris celui-là, je connaissais pas quoi son œuvre, et oui c'est ce qui m'en reste en tout cas aujourd'hui, c'est la sensation du lieu, de la chaleur, de ce temps suspendu, de ces êtres qui savent pas quoi faire d'eux-mêmes, oui. Et je pense qu'à l'adolescence c'est quelque chose qui parle aussi. Avec ces fantômes qui traînent, énormément de sensations très nettes et beaucoup de mystères en même temps.
Et elle fait partie des grandes figures littéraires qui vous ont porté, vous qui petit à petit allez devenir écrivaine et plonger dans l'écriture comme elle ?
Oui, ben, ne serait-ce que parce que c'est une femme, en tant que jeune femme puis femme se mettant à écrire, oui, elle a beaucoup compté. Aussi parce qu'elle parle beaucoup de l'écriture et de manière extrêmement inspirante.
Ouais. Ouais. Voilà, donc une écrivaine pour qui Marguerite Duras figure au Panthéon, voire tout en haut du Panthéon. Et face à vous, donc un écrivain pour qui Marguerite Duras figure un peu moins au Panthéon, voire pas du tout, Charles Dantzig.
Si, elle est tout à fait au Panthéon, d'ailleurs elle n'a pas besoin de moi, elle est dans la Pléiade, elle est enseignée dans des universités, il y a des collèges Marguerite Duras, c'est un écrivain institutionnel, vraiment.
Absolument,
elle est pas
on lui consacre 10 heures voilà. Au Théâtre de l'Odéon,
donc
cette année.
Tout va bien pour elle. En réalité, ce qui est intéressant par rapport à ce que vous disiez, c'est le moment où on lit les écrivains et le moment où ils apparaissent. Mmh. Moi, quand j'avais 20 ans, Marguerite Duras était... dans sa pire période, parce qu'elle a quand même eu une pire période.
C'est-à-dire ?
C'est les années 80 où elle est devenue complètement dingue et elle disait n'importe quoi. C'est la période où elle faisait une interview avec Platini, elle l'appelait mon ange. C'est la période où, le soir de l'élection de Mitterrand, le lendemain, elle publie un article dans une revue qui s'appelait L'Autre Journal où elle raconte que quelqu'un s'est masturbé contre elle. Elle disait à peu près n'importe quoi et en même temps...
Donc c'est la période après le Goncourt où elle est devenue immensément célèbre, où elle devient...
Je crois qu'elle n'a pas eu besoin du Goncourt pour être vaniteuse. Mais ça faisait partie de son tempérament. Et en fait, c'était insupportable parce qu'elle était partout, elle disait n'importe quoi. On lui reproche d'ailleurs, je crois qu'on a entendu ça dans des proches, l'histoire du petit Grégory, où elle a dit, vous savez, un fameux article où elle a dit coupable, forcément coupable, à propos de la mère, je crois. Eh bien, pour moi, c'est une de ses moins pires erreurs et qui montre qu'en fait... Non, mais c'est vrai.
Ah bon ?
Non, parce que ça montre que pour moi, elle raisonnait là de manière esthétique. Elle raisonnait en tant qu'autrice de théâtre et donc pour un écrivain ou une écrivaine, il fallait qu'elle soit coupable parce que c'était plus théâtral. Donc je comprends qu'elle ait pu penser ça parce qu'elle raisonnait en écrivain et pas en journaliste.
Pauline Peyrade, vous le trouvez fascinant, ce personnage. D'abord, vous êtes un peu plus jeune que Charles Dantzig. Et donc, vous le trouvez fascinant, ce personnage. Et vous trouvez non seulement ce personnage fascinant, mais le rapport qu'elle-même, elle entretient à son propre personnage.
Oui, après, c'est vrai que, effectivement, toute cette part du personnage médiatique, moi, je ne l'ai pas connue.
Voilà.
Donc, je l'ai rencontré vraiment après par ses livres et puis par aussi peut-être les...
Donc pour vous, c'est une immense écrivaine, point.
Ah oui, c'est une immense... Ben non, après, oui, c'est une immense écrivaine, ça, il n'y a pas de question. Après, je ne suis pas dans l'idolâtrie non plus, je ne pense pas que l'idolâtrie soit souhaitable, parce que ce qui est intéressant, c'est un rapport vivant, contrasté. En pensant à l'émission, j'en parlais avec des amis écrivaines, qui disent, alors il y en a qui adhèrent totalement, puis d'autres qui disent, il y a toujours un moment où on est excédé aussi, parfois, déçu.
Par les idoles.
Ouais, ou par, enfin voilà, par aussi par des prises de position qu'elle a, un rapport ambivalent en fait, c'est vrai qu'elle a fasciné, mais moi j'ai la sensation, et c'est très personnel, qu'elle est aussi fascinée par son propre personnage, ouais. Mais qu'elle est aussi très sincèrement fascinée par l'écriture. Et ça ne tarit jamais, enfin jusqu'au derniers entretiens qu'elle fait 3 ans avant de mourir, qui s'appelle Écrire, elle parle encore de l'écriture. On a l'impression qu'elle cherche encore à nommer, soit à explorer ce mystère. Elle parle de que l'écriture est sauvage, elle parle de la nuit, elle continue ses hypothèses. On sent que c'est encore très très vivant, très brûlant en elle, et ça c'est très enviable.
Charles Dantzig.
En fait, elle était double, elle était comme ces écrivains, comme Victor Hugo, je ne les compare pas littérairement, mais qui était à la fois un écrivain et à la fois un personnage et qui jouait des deux.
Oui, mais vous avez un regard aussi assez critique, Charles Dantzig, sur l'écrivaine qu'elle était, oui, sur son style, sur sa manière d'écrire le français, qui était très particulière.
Oui, d'ailleurs, on devrait reconnaître plus souvent qu'elle doit beaucoup à une écrivaine qui est moins connue et qui est Hélène Bessette, sur laquelle elle a écrit dans l'Observateur dans les années 50, et à qui elle a peut-être, elle s'est peut-être inspirée pour prendre ce style en ressac comme ça, qui n'est pas toujours exaspérant. Enfin, elle a une manière, par ce ressac, de donner l'impression de faire du surplace, mais elle avance quand même. Là où elle est exaspérante, c'est que c'est, pour moi, dans ses fictions, parce que je pense que dans les essais, moi je la préfère dans les essais, justement, dans écrire, dans la vie matérielle, même s'il y a des horreurs homophobes dans la vie matérielle, elle est plus intéressante parce que dans les essais, elle essaie de s'intimider elle-même. Et ça se voit à l'abus du verbe savoir. Sans arrêt dans ses romans, ses personnages savent, je sais, je sais, je sais, je sais. Et aussi, on voit qu'elle avait peut-être pas beaucoup de cœur, c'est que ses personnages pleurent en permanence. Donc il y a un abus des pleurs et du verbe savoir, souvent dans ses fictions, pas toujours.
Mais il pleure de chagrin, ou il pleure d'émotion,
non,
ou il pleure
qu'il
de pleure, joie,
je pense
il pleure,
qu'il pleure
de quoi
que... Je pense qu'il pleure parce que Duras, c'est plus cérébral que sentimental, et donc elle devait se dire de temps en temps que pour avoir l'air d'avoir du cœur, il fallait faire pleurer les personnages.
C'était une manière de leur donner de la chair.
Je crois un peu, ouais.
Il est de mauvaise foi. Pauline Peyrade, vous, au contraire, vous trouvez que cette écriture, elle est tellement puissante et tellement belle que vous dites même, il faut s'en méfier, parce que sinon c'est contagieux et on se met à écrire comme elle.
Oui, oui, puis même en l'écoutant parler, on se met à parler comme elle. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du souffle, du rythme, en fait, qui est très physique, qui s'imprime. Et je voudrais réagir à deux choses à ce que vous disiez. Je ne sais pas si, par rapport aux larmes, tout ça, aux émotions, bah c'est ce qui est très vivant en elle, c'est sa colère. J'ai l'impression que c'était une femme qui était en colère très très longtemps, par rapport aux injustices qu'a subies sa mère, contre son frère, contre tout un tas de choses, et peut-être contre elle-même, je ne sais pas.
Donc de la rage.
Oui, de la rage, oui, voilà, contre l'alcool, contre voilà, tout un... Et en même temps, elle était assez sans phare avec ça. Et c'est ça qui la rend aussi extrêmement impressionnante, en fait.
Ça a gardé une puissance, comment dire, de subversive, oui, tout
doute,
au long de son œuvre.
Ne serait-ce que l'alcool, c'est quand même rare. Enfin, le rapport des femmes à l'alcool, et qu'elle le montre, qu'elle en parle, que je suis une alcoolique qui ne boit pas. Enfin, comme elle dira après, un peu de la même manière, je suis une écrivaine qui n'écrit plus. Ouais.
Oui, mais ça, c'est le personnage, c'est pas l'écrivain. Ça faisait partie du personnage.
Je trouve très difficile.
Je trouve très difficile de distinguer
les deux, en fait, parce que on a l'impression qu'elle écrivait en permanence, mais ce qui est intéressant quand vous nommez Hélène Bessette, et ça par rapport au personnage aussi, il y a un très très intéressant essai qui est sorti à la rentrée de Johanna Russe sur comment torpiller l'écriture des femmes, et elle, parmi les nombreuses techniques conscientes ou pas, elle parle notamment du fait que les femmes écrivaines qui passent à la postérité, qui subsistent dans les anthologies, et elle dit, c'est très très sérieux comme mais tu apprends des statistiques. Elle dit en fait, il y a une espèce de stagnation à 8%. Voilà, il y a 8% de femmes pour 80% d'accord. d'hommes, quel que soit. Voilà, bon, elle, c'est beaucoup. Donc, c'est un essai qui date du début des années 80 et qui regarde beaucoup la littérature anglo-saxonne. Donc, elle ne parle pas de Marguerite Duras directement. Mais elle dit que parmi ce qui vient, gommer, torpiller, voilà, pour reprendre son terme, l'écriture des femmes, c'est que pour passer à la postérité ou pour être retenue, il y a besoin qu'on accole à l'écrivaine un stéréotype sexiste.
Ah oui.
Il y a la suicidée, la dépressive, la femme parfaite. Et avec Duras, il y a ce personnage qui finit par occulter, en fait, finalement, ce qu'elle a écrit. Peut-être que, est-ce qu'il manquait à Hélène Bessette un personnage public qui permettrait, voilà, de la retenir?
Bah non, mais... c'est d'autant mieux. Elle n'a pas eu besoin de personnage. Son œuvre reste, elle est moins lue. C'est pas
elle
grave,
est moins lue, moins connue.
Oui, mais c'est...
Justement, elle n'a pas de personnage médiatique.
Oui. Enfin,
je veux dire, vous avez été contemporain des dernières années de Marguerite Duras. Vous avez
moi, je trouve que ça lui a nui. Je trouve que ça lui a nui.
Et à quel point, vous avez connu à quel point on s'écharpait
sur
les
places.
Ah oui, mais je suis d'accord. Mais même le fait que maintenant, enfin... Voilà, moi, c'est un peu mon espoir. Voilà, ma personnalité, je le connais moins, donc j'ai accès à son œuvre. Mais c'est vrai qu'il fait écran, à l'écrivaine.
Mais elle l'a cherché. Donc ça, on ne peut pas... C'est elle qui disait ce qu'elle disait.
Vous diriez, parce que quand Pauline Perrade dit « Quand on est écrivain, il faut faire attention à ne pas être contaminé par Duras. » Et l'autre jour, j'ai eu à ce micro Philippe Besson qui disait « Mais je me suis vu écrire comme elle pendant des années, avoir des phrases et des tournures qui étaient les siennes. » Vous diriez qu'elle a été copiée, mais alors jusqu'à ce que mort s'en suive.
Ah oui, il y a du simili Duras.
Du sous Duras.
Ça, c'est évident, mais c'est pas très mystérieux. Je veux dire, il y a eu du simili Sagan, il y a eu dès que quelqu'un est connu et que ça marche, il est imité, simplement parfois pas par mauvaise foi, parce qu'il y a une espèce de proximité naturelle entre un auteur et soi, et on se met. Enfin, de toute façon, c'est un truc assez. Elle a une façon d'écrire très prégnante. Donc, elle n'est pas la seule. Moi, je lis La Fontaine, je pose La Fontaine, pendant 10 minutes, j'écris à La Fontaine. Mmh. Ça arrive à tout le monde, donc il suffit d'être un peu attentif et pas groupie. C'est-à-dire que, voilà, ce que je voudrais dire, c'est que...
Peut-être que c'est plus
c'est que
facile
Duras, elle a trop de groupies et pas assez de lecteurs.
C'est une jolie pirouette pour la fin. Charles Dantzig, je vous remercie. Pauline Perrade aussi. Donc, 30 ans de la mort de Marguerite Duras. Il y a 1000 choses à lire en librairie. Et comme dirait Charles Dantzig, qui n'y a pas été quand même avec le dos de la cuillère, au lieu d'être groupie, soyons lecteurs. Merci à tous les deux. On écoute Lana Del Rey parce que c'est le choix musical de la Grande Matinale.
Here's my white feather hawktail deer hunter. Likes to keep me cool in the hot breeze summer. Likes to push me on a screen John Deere mower. I know you wish you had a man like him, it's such a bummer. When I met him, like an arrow, like a bird in the heart, like a sparrow in the dark, snap, crackle, pop. But I'm home for the summer and I wanted to know if I could use your stove to cook something up for you, cause you're positively voodoo, everything that you do. Did you know exactly how magical you are? Whoopsie daisy, you yelling I love you out to my white feather hawktail deer hunter. Take my hand off the stove, hun. Yeah, well, your dinner's almost done. Whoopsie daisy, yoo-hoo, I imagine you do know how absolutely wonderful that you are. He's my white feather hawktail deer hunter. Before I met him, wore a bow over 3 summers. Now it's a ribbon round my neck and it's cherry color. I just been baking, waiting on a spirit hunter. I got a nicotine patch for the summer. Yeah, I'm a ghost, doesn't mean I feel nothing. Put it on my ass, no tan line summer. I love my daddy, of course we're still together. Everyone knows I had some trouble, but it's been 3 summers. I know it's strange to see me cooking for my husband.
like who you are. Whoopsie daisy, you yelling I love you out to my white feather octail de unto her. Take my hand off the stove, hun. Yeah, you dinner's almost done. Whoopsie daisy, you I imagine you do know how absolutely bad I'm with an oven.
Elle n'est pas géniale, Lana Del Rey, c'est son tout dernier titre. Et malheureusement, mon niveau d'anglais ne me permet pas de vous d'en donner le titre. C'est beaucoup trop difficile à prononcer. Voilà, il est 9h46, nous sommes sur France Inter. Joie de retrouver Mao Drama. Mao, aujourd'hui, le constat des sociologues est sans appel. Une épidémie de solitude nous atteint. Et les amitiés sont les premières victimes collatérales du capitalisme.
Absolument. Alors que le temps découpé comme on le connaît, c'est une invention de notre espèce. Il y a beaucoup de choses qui sont de notre propre fait. Les dieux, les fuseaux horaires, la carrière de Matt Pokora. Pourquoi pas? Pourquoi? Je pose des questions. Voilà. C'est France Inter. Donc, flattons pas trop l'ego du genre humain, parce qu'on a peut-être découvert le vaccin contre la rage, mais en même temps, on a inventé le lundi. Donc, tu vois, deux poids, deux mesures. Et parfois, il y a des jours fériés qui tombent des week-ends. Le temps, on l'a créé pour rationaliser la vie en communauté. Le temps de digestion de la blague. Puis pour nous rendre productifs au travail. Le capitalisme nous fait perdre des points de repère comme nos amitiés. On est tout le temps là avec des SMS, j'ai pas le temps et tout. Ça nous déshumanise. J'ai l'impression un jour on sera là. L'enterrement de maman, oh j'ai pédicure, oh non. Il n'y a pas que le capitalisme qui est responsable, c'est aussi les réseaux sociaux. Mais j'ai une bonne nouvelle parce que Zuckerberg, il a déjà trouvé un moyen de monétiser notre mal-être. Il a créé un pendentif qui est doté d'une intelligence artificielle pour être ton nouvel ami. Oh. Oh, donc t'as toujours envie de te suicider, mais yay, t'as quelqu'un à qui en parler. Peut-être que c'est d'abord un collier, peut-être qu'un jour on mettra une intelligence artificielle dans un sextoy pour remplacer les petits amis qu'on n'a pas le temps de rencontrer. Et en même temps je crois pas trop au projet parce que comment un womanizer connecté pourra-t-il oublier mon anniversaire? Le vaccin contre le virus de la solitude, c'est l'amitié. Et je comprends, il n'y a pas de rendement, c'est clair. Avec mes potes, je ne crée pas des richesses palpables, mais je crée des souvenirs. Des parties de Monopoly où on se fait pleurer, pourquoi pas. Des terrasses qu'on dérange, ou avec ma meilleure amie, on a un jeu que j'adore. C'est, on passe dans la rue, on prend un mec au hasard, et on le pointe du doigt, et on touche notre ventre, on fait « Ah, il a reconnu son papa oh !» C'est des moments simples qui échappent à la logique du marché.
Ah oui, toute la logique, tout court.
Il y a une étude scientifique qui montre que, évidemment, sur une vie entière, c'est l'amitié qui rend plus heureux que l'amour, plus heureux que les enfants qui passent une vie à essuyer tes larmes, à t'accompagner à des rendez-vous d'hôpitaux, si ce n'est une meilleure amie. C'est quelqu'un que t'appelles à 2h et qui te dit pas « Ça va? Est-ce que tout va bien ?» Non, non, un meilleur ami te fait « Oh, comment elle va ma petite pétasse? C'est pour un test de grossesse, c'est pour un verre de chardonnay ?» C'est ça, c'est quelqu'un qui connaît tes besoins les plus intimes. Au moment de ma mort, c'est pas mes heures à écrire des chroniques qui vont défiler devant mes yeux. C'est le rire de mon meilleur ami Julien sur une plage naturiste qui danse en me disant « Meuf, j'ai rencontré une vieille dame qui s'est mariée pour l'argent. C'est trop moi !» C'est les larmes de ma meilleure amie Anaïs qui me lit son dernier poème sur ses origines kabyles. C'est Salomé qui me dit « Je suis vraiment désolée que mon oncle t'ait dragué à Hanouka, mais en même temps, il n'a jamais eu de sapin de Noël et du coup, quand il a vu ton boule, il l'a complètement confondu avec les décorations. » Évidemment, ce que je verrai sur mon lit de mort, c'est mes meilleurs amis à qui je dirai plus jamais « J'ai pas le temps ». Mais j'annule un truc et j'arrive tout de suite.
Ça, c'était Mao Drama. C'est joli.
La grande matinale sur France Inter.
Et cette semaine, c'est Alix Van P qui présente les nouvelles têtes. Alors, il y a une nouvelle tête qui vient de s'asseoir face à elle dans le studio.
Tout à fait. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans Nouvelle Tête. La nouvelle tête du jour est une tête bien faite. Je dirais même que c'est une tronche. Nous avons la chance d'être en studio ce matin avec une romancière qui est aussi dramaturge, qui est aussi poétesse, pas mal le CV. Bonjour Julia Lepère.
Bonjour.
Votre première vocation, c'était comédienne, mais dire les mots des autres, c'était pas votre truc. Alors vous avez commencé à écrire, pas si étonnant pour une fille de deux écrivains. Vous avez déjà publié 3 recueils de poésie et un premier roman sorti au mois de janvier aux éditions du Sous-sol, La mère et son double. Roman qui porte bien son nom, puisqu'après l'avoir lu, on voit double, on se sent ivre. Vos phrases font parfois plus d'une page, vos personnages ont des visions. En vous lisant, on ne sait plus trop si on est dans un rêve, un cauchemar, un conte pour enfants ou un livre de science-fiction. Julia, pour écrire un roman pareil, vous carburez à quoi le matin ?
Alors je bois beaucoup de café, mais je pense que ça ne fait pas tout. Je carbure à l'imagination, j'ai toujours eu beaucoup d'imagination, c'est un peu banal de dire ça comme ça, mais je crois que pour moi c'est très important d'avoir cette espèce de bulle, ce monde intérieur. Voilà, je passe beaucoup de temps à regarder les arbres, à regarder la mer.
Et ben voilà, exactement.
Je passe beaucoup de temps à lire, je pense que ça vient de tout ça.
La mer est extrêmement présente dans votre roman, déjà elle est dans le titre. Vous qui avez habité à Marseille, on se pose la question, est-ce que vous avez pris l'habitude d'écrire en regardant la mer ?
Oui, complètement. Quand j'habitais à Marseille, je partais avec mon petit carnet, je me mettais sur des rochers. Bon, normalement, c'est un peu inconfortable, donc je ne restais pas non plus 1000 ans. Mais effectivement, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup faire. Et écrire dans la nature, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et la mer, c'est un tel... Bon, surtout pour ce texte où j'ai pris effectivement beaucoup de notes avant, etc. Mais c'est un tel appel vers l'infini. Justement, ça ouvre complètement l'imaginaire. Donc c'est vrai que ça a été un terrain assez... fertile.
Bah on le sent en vous lisant. Alors, votre style est exigeant, les histoires s'entremêlent. Personnellement, j'ai mis quand même plus de 100 pages à comprendre le lien entre deux histoires, une qui se déroule sur un cargo et une autre qui se déroule dans une ville imaginaire. Est-ce que dans la vraie vie, vous arrivez à raconter des histoires en allant droit au but ?
Oula ! Je crois pas. Non, pas tant, je pense. Non, j'aime bien. Et encore, j'ai fait vachement d'efforts pour La mer et son double pour qu'au bout de ces 100 pages, on comprenne vraiment le lien. Non, je crois que j'aime bien une certaine forme d'opacité. Bon, on parlait de Duras avant. J'aime bien aussi, un peu comme dans un film de David Lynch, qu'on mette du temps à comprendre comment les intrigues sont mêlées, que aussi la lectrice, le lecteur puisse faire cet effort de rassembler un peu les pièces du puzzle. Et j'aime bien le faire moi, en tant que spectatrice ou que lectrice. Donc c'est vrai que j'ai un peu mis ça dans La mer et son double. Et je pense que je pourrais effectivement aller plus vite j'aurais pu aller plus vite peut-être, mais j'aime bien qu'on découvre à un moment comment justement ces histoires sont liées, que ce soit une révélation aussi.
Et c'est très gratifiant justement quand on lit et qu'après 100 pages on se dit « mais ça y est, j'ai compris ». Alors c'est difficile, voire impossible de vivre de sa poésie aujourd'hui. De quoi vivez-vous ?
Eh bien, je suis intermittente du spectacle, tout simplement.
Pareil.
Oh waouh ! Comment ça va ?
Bienvenue au club.
Oui, on est. Voilà, parce que du coup, je suis aussi comédienne, j'ai une formation de comédienne, etc. Et après, au fur et à mesure, j'ai arrêté un peu de faire du théâtre pour plus faire des performances autour de mon travail littéraire. Du coup, je suis intermittente.
Ce qu'on va voir tout à l'heure, d'ailleurs. Alors, pour écrire La mer et son double, où la nature est omniprésente, où les hommes sont souvent tout seuls contre cette nature, vous avez été inspirée par une scène de film, la scène d'ouverture de Paris, Texas, de Wim Wenders. Et donc, sur cette musique de Ry Cooder, un homme est perdu dans le désert, il est seul, il est assoiffé, déboussolé. Qu'est-ce qui vous touche tant dans cette scène ?
J'adore cette musique de Ry Cooder.
Moi aussi.
Ce qui me touche, c'est cette... J'ai l'impression que cette scène, elle fait appel à quelque chose de totalement métaphysique, où ça nous ramène complètement à ce qu'on est en tant qu'être humain. J'aime bien les choses qui nous dépouillent un peu notre condition sociale, notre condition d'homme et de femme, de notre identité. Il y a juste cet homme au milieu du désert qui ne se souvient de rien. Et j'ai l'impression que ça peut nous parler à toutes et à tous, cette espèce de moment d'abîme où on ne sait plus qui on est.
D'autant que vous-même, vous l'avez vécu, si je ne me trompe pas. Alors pas dans le désert, mais vous êtes déjà arrivé de vous perdre en mer, d'être emporté par une baleine.
Oui, ça m'est arrivé une fois, mais c'est déjà pas mal. Oui, j'ai été emportée avec ce phénomène de baleine où on nage trop loin et ensuite on ne peut plus revenir. Et c'est vrai que c'est un moment où j'ai vraiment cru que je ne retrouverais pas le rivage. Et c'est un moment qui a été assez fort. Et je pense qu'on a des moments dans la vie, sans que ce soit aussi concret, physique, où on se sent un peu se perdre ou déposséder de soi. Et on est, ou par exemple, après un deuil ou après un chagrin d'amour, après des choses comme ça. Et on est complètement perdu, en fait. Et il faut qu'on retrouve un peu le chemin vers soi-même. C'est un peu ça que raconte ce livre aussi.
Vous parliez de deuil. Justement, alors, votre père, Pierre Le Père, ça ne s'invente pas, était poète, auteur de nombreux recueils de poésie. Il est décédé il y a 3 ans. Il était décrit comme un poète vagabond. Quel genre de poète c'est, un poète vagabond ?
Mon père avait vraiment été sans domicile fixe, donc il avait même été arrêté pour ça, parce qu'à l'époque, le vagabondage...
C'est en 94.
Voilà, c'était interdit, donc il avait même fait de la prison pour ça. C'est un poète qui peut-être est un peu en marge de la société. C'est Arthur Rimbaud, oui, voilà, c'était aussi, je pense, une grande inspiration pour mon père. Et c'est vrai que lui avait cette personnalité très atypique, cette manière d'être un peu toujours à contre-courant ou à côté... une grande liberté aussi là-dedans, mais voilà.
Est-ce que vous vous êtes lancée dans la poésie pour vous rapprocher de lui ?
Ce qui est vrai, c'est que quand on entend beaucoup parler de poésie ou littérature quand on est enfant, j'entendais beaucoup mon père aussi réciter des poèmes et tout ça. Je pense que moi, ça m'a vraiment fascinée et ça m'a donné aussi envie d'en écrire. Oui, peut-être pour me rapprocher de lui. En tout cas, ça a été un geste... Peut-être qu'au début, j'ai fait par mimétisme, mais ensuite, je me suis complètement appropriée ça.
Épanouie là-dedans. Vous avez un talent caché complètement inattendu. Vous êtes clown.
Oui, alors.
À quel moment est-ce que vous exprimez votre clown ?
Eh bien, à plein de moments, en fait. Malheureusement, pas toujours les moments les plus opportuns. Mais oui, j'ai fait des années de formation de clown après mon école de théâtre. J'avais un prof de clown qui disait que le clown, c'était la poésie en action. Ah. Et j'ai vraiment retrouvé quelque chose de la poésie dans le clown. C'est une figure qui me touche beaucoup. J'ai essayé de mettre aussi un peu dans le livre, notamment le personnage de Molly, ce côté un peu clownesque, ce côté un peu perdu, cette idiotie, etc. Et moi, faire du clown, ça m'a libéré de plein de choses. Ça m'a permis, moi, j'aime beaucoup aussi faire rire, entendre des gens qui font rire. Enfin, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup.
Et justement, en parlant de ce personnage clownesque de Molly, on en vient à votre carte blanche. Vous avez choisi de nous lire un passage de La Mère et son double en musique et en live, puisque le musicien Mathias Bourg est avec nous en studio. Il va vous accompagner au clavier. On vous écoute.
Alors les hommes souvent se le disent, le soir dans le café, qu'il va falloir qu'elle en fasse des efforts, celle-là, si elle veut un jour reprendre le commerce. Et Molly les écoute et murmure son nom, fait des plans pour fuir à l'autre bout du monde, dans un pays lointain où il ferait toujours froid, où les vents se lèveraient comme autant de chevaux pour l'emmener au-dessus de montagnes sacrées. La nuit, le jour, Molly y pense, s'enfuir. Elle rêve que son père revient la chercher. Elle imagine qu'il lui ressemblerait un peu, qu'il serait plus grand et plus fier que tout le reste des habitants de paix. Molly rêve que par son tournoiement, elle change le cours du temps. Alors elle s'imagine enfant éternel dans une époque de magiciennes et de sorciers où des chasseurs rapporteraient de l'ancienne forêt des animaux fantastiques et Molly aurait le pouvoir de leur rendre la vie et la mort n'existerait plus. Tout reviendrait à sa place, inchangé jusqu'à la fin des temps. Et Molly peut continuer à imaginer comme ça jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à ce que toutes les étoiles explosent, car son imagination ne connaît aucune limite. Peut-être parce que Molly est différente des autres, c'est que le réel l'indiffère. Et parfois on dit même qu'elle est folle, et que cela c'est d'abord à cause de l'ombre du père. Que Molly a dans ses veines du sang impur d'exilé. Et que c'est la raison pour laquelle ses cheveux châtain clair prennent, quand vient la nuit, de ces reflets violets qu'on dit maudits.
Bravo. Merci pour cette très belle lecture. Merci beaucoup Julia Lepère d'être venue
Merci
ce matin dans Nouvelle Tête. Je rappelle que vous avez publié un premier roman audacieux, déstabilisant, gratifiant, La Mère et son double aux éditions du Sous-Sol. Roman idéal pour divaguer et qui ringardise la consommation de LSD.
La mère et son double. Moi, je viens de voir une mère et son double, mais c'est quelque chose qui s'est passé en studio. Et c'était très beau et très joli à regarder. Alors, c'est la fin de la grande matinale, c'est la fin du mag. Ali Rebéi, dans un instant, juste après les infos, vous êtes là, Ali ?
Oui, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, ce matin, on s'intéresse à la perte. Comment surmonter toutes les pertes qui nous affectent ? Perte de notre jeunesse, de la vigueur, de notre corps, de notre santé, de nos amours, et bien sûr, perte de notre vie et de celle de nos proches. Comment les accepter ? Y survivre et trouver un chemin vers le bonheur ? Nous recevons la philosophe Marianne Chaillant et le psychologue Loïc Crebu. Toutes vos questions, vos témoignages sur la perte au 01 45 24 7000.
À tout à l'heure.